journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission dans laquelle vous avez la parole. Aujourd'hui, dans le JDA, nous attendons vos réactions à la montée du tribalisme au Cameroun. Depuis sa cellule du groupement spécial d'opération de Yaoundé, l'opposant Maurice Kamto s'est adressé aux Camerounais à l'occasion de la célébration de la 53e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Dans ce communiqué, le président du MRC dénonce notamment l'instrumentalisation des divisions ethniques. Il est notamment revenu sur la sortie du ministre Jean-Momo de Dieu, qui à la télévision fait un parallèle entre juifs et bamileke et justifie ainsi la Shoah. Alors qui a intérêt à attiser la haine au Cameroun? Nous en parlons dans quelques instants avec Joël Didier Ngo, président du comité de libération des prisonniers politiques, le CL2P. Pour participer à l'émission, posez vos questions, nous faire part de vos réactions. Composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et si vous nous écoutez du côté du Cameroun, notamment sur le www.africa1.com, composez le 00 33 1 55 07 58 00 pour intervenir. Avant cela, comme de tradition, on se tourne vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonsoir, messieurs, bonsoir. Tous les journalistes Africa numéro 1, bonsoir à toute l'Afrique de l'Ouest. Je suis étonné de l'altitude de Wade qui se dit qu'il est un avocat, mais je crois que c'est un fou. Wade pense que le Sénégal est un royaume. Je veux savoir le nom du père de Wade, si son père a été président. C'est pour ça qu'il a présidé. C'est pour ça que j'ai pensé que son fils soit le président de la République sénégalaise. Déjà, dans son propre fief, où devait être maire, il n'a pas pu être élu là-bas. Je pense que les Sénégalais, on peut les acheter maintenant. L'argent qu'il a volé, ça ne suffit pas. Il faut arrêter de nous endormir. Là. Allez, ciao.
Allô, bonjour, chers auditeurs d'Africa numéro 1. C'est juste pour partager une réflexion concernant l'actualité sur le Venezuela. Je vous invite à être un peu plus vigilant concernant les actualités qui nous inondent. Ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui, je suis persuadé que c'est ce qui s'est passé en Libye. Tout comme la Libye, le Venezuela est riche en pétrole. Et tout comme la Libye, la presse occidentale et les occidentaux ont soutenu une petite partie de gens qui sont normalement dans l'illégalité totale. C'est ça qui s'est passé. Ils sont allés soutenir les habitants de Benghazi, qui auparavant étaient déclarés fiefs du terrorisme en Libye. Et aujourd'hui, ils soutiennent un monsieur qui se dit président, qui s'autoproclame président.
Si le ministre du Gabon va prêter serment sur le territoire marocain, tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'égoïsme du pouvoir. Monsieur Bongo, même s'il est en incapacité de diriger le pays, il se maintient, il se conforme au pouvoir. Il a laissé ses pions au pays pour... accepter, exécuter ses ordres et les plaquer sur les citoyens gabonais. Là, c'est malheureux, ça. Même si Bongo qu'il rentre dans son pays, s'il avait bien arrangé les hôpitaux, avait bien construit les hôpitaux, il doit être en convalescence dans son pays, le Gabon. Et les ministres lui prêter allégeance, s'il faut dire ainsi, ou si vous voulez, bon, lui faire prêter serment à la République, mais sur le territoire gabonais. Ça fait honte d'aller réaliser cette petite cuisine interne là-bas sur un sol étranger, sur une terre étrangère. Ça fait honte, ça. Bon, et ceux qui sont restés au Gabon, ceux qui sont au gouvernement, essayent de voir ce problème. Ça risque d'entacher un peu la réputation ou bien même l'honneur du Gabon. Essayent de voir tout ça. Ça fait honte, ça. Bon, on souhaite vraiment que les choses aillent de l'avant pour le Gabon. Allez, salut.
Bonjour, Africa numéro 1, Brice à l'appareil. Juste une réaction à la chronique de Fatou. Merci Fatou, merci beaucoup. Vraiment, j'ai adoré ta chronique. Bon, c'est un sujet qu'on connaissait. Alors, je dis, bon, voilà. Voilà pour ceux qui sortent toujours le totem de la théorie du complot, tout ça. C'est un gouvernement qui le dit. Et je pense qu'il n'a pas attendu, Monsieur Kémy Séba, pour savoir ce qu'il dit. Seulement, il se décomplète de le dire parce que, voilà, ça a été conforté, peut-être rappelé par lui. voilà, on jette des marrons, on te donne des marrons pour que tu puisses attaquer ton adversaire, tu le fais. Et il faut profiter de cela parce que aujourd'hui, l'Afrique porte la France sur son dos. Mais étant donné que le gouvernement français a tendance à vouloir tellement s'européaniser que demain, l'Afrique, ces 14 pays africains porteront l'Europe sur le dos. Et là, ça sera beaucoup plus lourd de conséquences sur les économies africaines, malgré qu'il y ait des Dramane Ouattara et compagnie comme président. On espère quand même, les Macky Sall et tout, j'espère quand même qu'ils vont mettre de l'eau dans leur vin par rapport au franc CFA et qu'ils vont permettre de décoincer ce truc-là. Parce que franchement, c'est quelque chose de très dangereux pour l'avenir et il faut que ça s'arrête. Salut! J'étais un peu long quand même.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages, même parfois un peu longs. Vous pouvez désormais intervenir en direct en journal des auditeurs en composant le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, la montée du tribalisme au Cameroun, nous en parlons tout de suite avec Joël Didier Ngo, président du comité de libération des prisonniers politiques. Joël Didier Ngo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Joël. Avant de peut-être parler de cette question du tribalisme autour duquel vous avez fait également un communiqué, est-ce que vous avez des nouvelles des personnes qui ont été interpellées il y a quelques semaines maintenant et dont le premier d'entre eux, Maurice Kamto?
Effectivement, les nouvelles qui nous viennent au compte-gouttes. Pour Maurice Kamto, il a été transféré, pour être précis, au secrétariat d'État à la Défense, qui est l'équivalent de la délégation générale à la gendarmerie nationale de Yaoundé.
Le fameux CED.
Oui, et des informations qui doivent être recoupées font état du fait qu'il devrait passer devant le commissaire du gouvernement aujourd'hui. Commissaire du gouvernement, ça veut dire tribunal militaire de Yaoundé.
D'accord. Et pourquoi il passe devant un tribunal militaire ?
On ne sait toujours pas. C'est vraiment le flou qui existe et l'opacité qui existe sur ces affaires. Et quant à ses camarades, ses principaux camarades, ils sont disséminés dans différents lieux d'incarcération. Certains sont à la prison centrale de Koudangui, comme Paul-Éric King, qui était son directeur de campagne. D'autres sont à Douala, à Yaoundé, dans les différents commissariats. C'est vraiment à tue-tête qu'on les a dispersés comme ça, avec le risque que les familles ne se retrouvent pas, pour ceux qui ont été déportés des villes de province vers Yaoundé. Et au total, on compte aujourd'hui presque 207 détenus de la fameuse marche dite blanche qui a été réprimée sauvagement par le gouvernement le 26 janvier et pour lesquels nous nous battons, nous demandons la libération immédiate parce que nous les considérons comme des détenus politiques.
C'est très clair. Alors venons-en aussi, et c'est aussi lié à ce qu'on appelle la montée du tribalisme. Au Cameroun, on voit sur les réseaux sociaux les invectives, les déclarations parfois, même de ministres à la télévision nationale. Vous écrivez dans votre communiqué, Joël Didier Ngo, dans cette forme d'inégalité, l'idée que certaines tribus ne se comportent pas bien et sont arrogantes, je cite, et gourmandes, et devraient donc s'exposer à la violence d'État sous une forme de génocide, n'émeut même plus grand monde dans le milieu intellectuel et politique camerounais. Est-ce que pour vous, cette montée du tribalisme et cette instrumentalisation, il faut plutôt le dire, des divisions ethniques au Cameroun est du fait du gouvernement ?
Il faut, c'est vrai que dans notre communiqué, on le dit, mais c'est un sujet qui est très, vous comprendrez que je le manie avec une certaine prudence, c'est un sujet qui est très sensible,
bien sûr,
très porteur d'une déflagration dont évidemment les membres du gouvernement qui instrumentalisent cela ne se rendent même pas compte. C'est pourquoi nous attirons l'alarme. En fait, nous reprenons grosso modo les propos tenus par le ministre Momo lorsqu'il parle en indexant les Bamileke en disant que s'ils sont trop arrogants et se montrent trop gourmands comme le seraient ou l'auraient été des Juifs, ils auraient droit presque au même sort que celui qui a été réservé aux Juifs sous la Shoah avec... Nous avons immédiatement marqué notre indignation et nous constatons qu'il y a une forme de banalisation au sein de l'élite intellectuelle, universitaire et médiatique camerounaise qui considère ça comme juste un dérapage alors que des propos sont extrêmement graves parce que non seulement il fait là allusion à la Shoah qui est un crime contre l'humanité, mais il menace même une composante ethnique du Cameroun. dont il est lui-même originaire, en jouant là un rôle en fait de babiléké de service pour le régime, en leur disant si vous continuez en fait à manifester, à revendiquer vos droits, vous risquez ce qui est arrivé aux Juifs. C'est exactement ce qu'il a dit. Vous comprenez donc la gravité des mots et des paroles qui sont prononcées, et c'est d'autant plus grave que Maître Momo, à notre après-recoupement, a fait cette émission-là, a été enregistrée au niveau...
C'était pas du direct, en plus. C'était pas un dérapage en direct.
Ce n'était pas du direct. Et dans la seule télévision nationale camerounaise, à une émission de grande écoute à vers 20h, qui passe vers 20h, vous imaginez ce que ça peut être comme écoute et comme attente et comme perception de ceux qui entendent ça, qui entendent ces mots-là, qui sont des mots sciemment prononcés, qui ont été planifiés dans un projet visiblement exécuté par quelqu'un qui s'est montré brouillon. Mais en fait, nous pensons que ça a été pensé, planifié et sciemment distillé pour qu'on cantonne le principal opposant qu'on veut réduire à son origine ethnique à n'être que le représentant des Bamileke. C'est en fait ça, le fond.
C'est très clair, merci Joël Didiengo. D'ailleurs, hein, suite à cette sortie malheureuse hein, de Jean Momo de Dieu, l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, Yves Lejeune Mbella Mbella, hein, a reçu... c'est Yves Lejeune Mbella Mbella, le ministre des Relations extérieures, a reçu l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, hein, Ranji Dor, et il a présenté ses excuses, ses sincères excuses du gouvernement camerounais. Restez à l'écoute, Joël Didiengo. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs. On commence avec Alaka et Jules qui se sont inscrits en nous envoyant un mail ou en laissant un message sur le répondeur. Voilà, je le dis. Alaka, bonjour.
Bonjour, Stéphanie.
Bonjour, Alaka. Alors, quel regard portez-vous sur cette instrumentalisation qui est faite des différentes ethnies au Cameroun?
Moi, je pense que...
Alors, Alaka, va falloir vous rapprocher un peu du téléphone. J'ai l'impression que vous êtes loin.
Allô?
Oui.
Vous m'entendez très bien maintenant?
Ça va un peu mieux. Allez-y.
J'étais juste en train de dire que vous avez utilisé le mot qui convient d'utiliser, l'instrumentalisation. Parce que la question du tribalisme au Cameroun aujourd'hui, évidemment, elle est très délicate. Elle est devenue plus délicate. Après la sortie du ministre Momo à la télévision nationale. Et c'est pour cela que moi, je dis il ne faut pas confondre les positions, les propos ou l'instrumentalisation, comme vous avez dit, d'un leader ou des leaders, ou de certains leaders, et la réalité au niveau du peuple.
Bien sûr.
Il est vrai qu'aujourd'hui, on regarde au niveau des réseaux sociaux que le tribalisme monte de plus en plus au Cameroun, ça devient de plus en plus inquiétant avec les propos parfois très violent et agressif des uns et des autres. Mais cela n'est pas la réalité sur le terrain. Parce que, comme vous le savez, le Cameroun a près de 250 ethnies. Et que lorsque vous prenez rien qu'au niveau des mariages inter-tribus, il est très difficile aujourd'hui d'imaginer d'étendre le tribalisme. Parce que vous allez trouver dans beaucoup de communautés des gens, des milliers, je dirais même des millions de personnes qui se sont mariés à d'autres tribus. Ceux-là, leurs enfants n'ont pas d'origine précise. Ils appartiennent de part et d'autre à plusieurs tribus. Ça, c'est la réalité sur le terrain. C'est-à-dire, même au niveau du bas-peuple, il est difficile, de mon point de vue aujourd'hui, de dire que le tribalisme est envisageable au Cameroun, vu le foisonnement, le mélange des cultures, qui fait d'ailleurs aujourd'hui notre fierté et notre force.
Vous dites finalement, Alaka, que cette instrumentalisation qui vient d'en haut, et que finalement, oui, au niveau du peuple, il n'y a, voilà, y a aucune opposition, quoi.
Ma lecture, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du peuple, il ne peut pas. Pour moi, il n'est pas encore envisageable d'imaginer le tribalisme au niveau. Parce qu'il n'a qu'à entrer dans les quartiers de Yaoundé, de Bakassam, de Douala, pour voir que les gens mangent ensemble, les gens boivent la bière ensemble, les gens se marient, ils font des réunions ensemble. Mais la question, c'est que par le calcul de pouvoir, par le positionnement, comme c'est le cas de Maître Jean de Boumou, qui a fait tout ce qu'il fallait pour entrer au gouvernement, quitte à utiliser tout ce qu'il fallait, alors qu'il était un opposant farouche au régime, on a vu toute la démarche qu'il a faite pour arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, parce qu'il a la tribune, parce qu'il a un espace de communication assez large, il peut toucher plusieurs personnes, ça permet d'utiliser des propos qui auront un impact. Mais moi, je suis convaincu qu'au-delà de l'élite qui se positionne, au-delà de la manipulation, parce que vous voyez même au niveau du MRC, on accuse beaucoup les militants du MRC d'être... les tribalistes, mais moi, je n'y crois pas assez. Mm. Il y a juste une frange de personnes, une certaine élite, qui manipule des jeunes au niveau des réseaux sociaux et qui utilise des propos un peu plus un peu déplacés. Mais,
très clair.
Au fond, vous allez constater que certains leaders, même pendant la présidentielle, se sont rencontrés, ils ont discuté au niveau des états-majors des partis, ceux qui ont une certaine posture assez patriotique, se sont rencontrés et discutent de ces problèmes-là. Donc, la question du tribalisme, c'est vraiment une frange, une petite quantité d'élite qui pense qu'il peut jouer sur ce terrain très dangereux, il faut le rappeler, pour se positionner et dire qu'ils sont le sauveur ou alors ils sont... voilà, dans tout cas, ça, c'est ma lecture.
Merci. Donc, non, mais on a bien compris à la CA, on a bien compris, hein, que vous dites finalement, c'est une petite élite qui joue avec le feu, qui joue, voilà, les pompiers pyromanes. Merci beaucoup à la CA d'avoir ouvert ce débat sur l'instrumentalisation hein, des divisions ethniques au Cameroun. On va écouter Jules. Jules, bonjour.
Merci, madame, et bonjour à tout le monde.
Bonjour à vous, Jules. Ça vous inquiète, ces propos incendiaires qu'on entend ici et là? Est-ce que vous craignez que ça infuse dans la société camerounaise?
Oui, c'est un peu c'est inquiétant. Donc, le prédécesseur a tout résumé. Bon, pour commencer, j'ai d'abord une pensée pour les morts dans la région nord-ouest et sud-ouest, surtout ces derniers jours à l'hôpital où il y a eu l'incendie. Voilà, donc j'ai une pensée pour eux. Donc, le prédécesseur, il a presque tout résumé. Donc, je ne vais plus revenir sur ça. Donc, moi, je pense que au Cameroun, il n'y a pas de tribu supérieure à l'autre. Chaque tribu chez nous a une capacité qu'elle peut apporter au développement de notre pays.
Donc, la est-ce politique... nécessaire de le rappeler, Jules?
Oui. C'est important de le rappeler, madame, pour que les auditeurs puissent bien comprendre. Donc, la politique de Yaoundé aujourd'hui, après 37 ans d'échec, c'est de diviser pour mieux conserver le pouvoir. Ça, c'est très important. Il faut que les gens comprennent que c'est ça. Voilà. Donc, et pour ma part, je résume un peu aussi. Quand on coupe l'eau, l'électricité, dans une grande ville comme Douala à Yaoundé, c'est pas un tribu qu'on coupe l'eau. C'est ni à Bamileke, ni au Boulou, et ainsi de suite. On coupe l'eau à tout le monde. Quand il y a eu l'accident des Zeka, ce sont des Camerounais qui étaient morts là-dedans. Donc, voilà. Et nous, les diasporas, quand on part à l'ambassade prendre le visa avec nos enfants pour aller dans notre propre pays, on ne demande pas votre tribu. On vous dit de payer votre visa et vous partez dans votre propre pays. Donc, nous devions réfléchir. Donc, le pouvoir de Yaoundé divise pour mieux conserver le pouvoir. Par contre, ce qui s'est passé après les élections, il y a les Sardinards, il y a les Tontinards. Et les Sardinards se trouvent aussi partout. Même dans ma famille, je fais des associations.
Alors, les Sardinards, on rappelle, parce que bon, notre auditoire n'est pas composé que de Camerounais.
Oui.
Ce sont ceux-là qui soutiennent hein, Paul Biya. On appelle ça les Sardinards,
voilà,
parce que quand
voilà.
On va au meeting, oui. On a le droit à un petit peu de pain avec de la sardine dedans.
Voilà, donc en principe, les Sardinards sont les gens qui soutiennent Paul Biya.
Et les Tontinards, ce sont ceux qui soutiennent Maurice Kamto.
Voilà.
C'est bien ça.
Voilà. Donc, je fais partie d'une association ici. Chez nous, il y a des Tontinards, il y a des Sardinards, mais nous, on s'entend très bien. On dit, bon, toi, tu es Tontinard, toi, tu es Sardinard, mais on rigole comme ça. Donc, c'est ce que le prédécesseur a dit. Allez dans des bars à Yaoundé, à Douala, vous allez voir, les gens mangent, ils boivent ensemble. Donc, je voulais finir par dire ceci. Dans un pays, c'est pas le Conseil constitutionnel qui élit un président. C'est le peuple qui élit un président. Et le peuple a donné ce mandat au professeur Kamto. Donc, nous avions comme arme fatale la marche pacifique. Et la marche pacifique, ça veut dire qu'on va déloger le président Paul Biya.
Pour l'instant, le MRC, Jules, a suspendu hein, ses marches hein, quelques jours après l'arrestation de leur leader. Mais on a bien compris, Jules, hein, que pour vous, hein, c'est aussi... Et c'est ce qu'écrit hein, le CL2P dans son communiqué. Hein, c'est que le tribalisme est l'arme qu'utilisent ceux qui n'ont pas d'arguments pour défendre hein, le bilan de 36 ans de corruption et de détournement de fonds généralisés. Merci beaucoup. Jules, je demande à Joël Didiengo de patienter un petit peu. Je reviens vers lui juste après. On va d'abord écouter Martin. Martin, bonjour.
Bonjour Stéphanie et bonjour à tous vos nombreux auditeurs.
Bonjour Martin, bienvenue. Vous êtes comme les précédents auditeurs, finalement c'est une instrumentalisation du gouvernement qui a du mal à, en fait, cette instrumentalisation, à comprendre peut-être, Jules, c'était aussi suite au contentieux électoral.
Absolument, je partage, n'est-ce pas, le point de vue, enfin, les différents points de vue des intervenants, en particulier, n'est-ce pas, votre invité qui a su résumer, n'est-ce pas, à ce niveau, la situation. Mais bon, sauf que bon, il a clairement dit que, n'est-ce pas, que le gouvernement était, en fait, il n'a pas voulu se prononcer clairement sur les positions du gouvernement sur la montée du tribalisme dans ce pays. Donc moi, j'aimerais simplement dire que c'est un jeu, hein, c'est un jeu politique qui est, n'est-ce pas, l'apanage même de ce gouvernement. Surtout que ce gouvernement n'est pas à sa première expérience. Il faut noter, Stéphanie, que chaque fois qu'un opposant ou alors un leader politique a gagné la sympathie du peuple, le gouvernement essaye toujours de mettre, n'est-ce pas, le tribalisme en avant, ou alors essaye de mettre l'attribut dont ressort cette personne pour essayer de jouer à un certain jeu. Mais les Camerounais, en ce moment, ne sont plus dupes. On comprend bien ce qui se passe. Et je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, ce gouvernement n'était pas à la première expérience. On a bien vu en 92, lorsque John Fondi a gagné, n'est-ce pas, la sympathie du peuple, en 92, ils ont dit que non, c'était une coalition entre les Bamlékés et les anglophones, en essayant de faire croire que non, si les anglophones remportaient le pouvoir, ben, ils allaient se rallier au Nigeria. Et puis même, en descendant un peu plus bas, en 84, lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, le coup d'État manqué.
On peut revenir même plus loin, Martin. Martin, je vous interromps parce que dans quelques instants, on va écouter Joël Didier Ngo et je vous poserai la question, Joël Didier Ngo, si justement cette instrumentalisation ne vient pas de la colonisation et de la guerre contre-révolutionnaire qu'a menée la France au Cameroun. On sait de quelle ethnie était le leader révolutionnaire Ruben Uniobe, assassiné par la France. Mais avant cela, comme on a un avis un peu différent, on va écouter très rapidement, je vais lui demander de faire attention à ses propos, mais peut-être qu'il nous explique pourquoi. On va écouter Joseph qui...
Bonjour.
Bonjour Joseph.
Oui, bonjour les auditeurs, je reviens encore.
Alors, vous étiez parti, j'avais pas vu.
Je reviens, et parce que tout le temps j'écoute, mais j'en ai marre. Les Bamiléké, il faut qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de vouloir faire.
C'est-à-dire...
Moi, je suis marié à une Bamiléké, hein, et on a eu déjà du mal à m'accepter. Si ma femme ne m'aimait pas, c'est que je ne suis pas aujourd'hui avec la Bamiléké. Hein. Ce que je veux dire, le monsieur qui vient de parler, là, parle que au temps de Fondi, on a amené le problème de tribalisme. C'est ces élections où on amène le problème de tribalisme. On est tous des Camerounais, c'est des Bamiléké qui travaillent avec le genre de gouvernement de Biya pour piller le Cameroun. Les prêtres, non, ce sont eux. Hein. Hier, vous connaissez l'hôtel Aqua Palace.
Attendez, Joseph, dites-nous, dans le précis, parce que là, vous avez dit au standard, les Bamiléké se sentent toujours victimes alors que c'est eux qui causent les problèmes au Cameroun. Vous dites finalement...
Quand vous arrivez à Douala, les mototaxis, ce sont eux qui sèment le désordre partout. Les problèmes de terrain, ce sont eux.
Des terrains, des
trucs.
D'accord.
Hein. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne respectent pas des lois.
Et vous pensez que c'est inhérent au fait d'être Bamiléké, c'est ça? Vous pensez que c'est inhérent au fait d'être Bamiléké?
Ils se sentent toujours victimes pour rien. Et pourtant, ce ne sont pas eux qui ont l'argent. C'est les Aoussa que Aïd doit donner de l'argent.
Bon.
Je mets toute personne à preuve et je veux le prouver ça, pas les banquiers.
Mais du coup, Joseph, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous?
Chez nous, il faut continuer sur les 200 ethnies qu'il y a, plus de 200 ethnies qu'il y a au Cameroun, de rester unis.
Voilà.
De rester unis.
C'est très clair. Ouais. On entend bien. Merci, Joseph. J'avais promis, parce que cette émission passe vite. Je demande à Bernard Alassane de patienter un petit peu. J'avais promis, Joël Didier Lengo, de revenir vers vous. Vous avez entendu peut-être une réaction à Joseph de ce qu'il vient de dire, qui dit finalement, voilà, ce sont les Bamiléké qui se victimisent.
Ouf, qu'est-ce que je peux dire à ce que je viens d'entendre? Vous avez
Est-ce que c'est un discours que vous entendez souvent dans la bouche des Camerounais?
C'est exactement le discours en filigrane que laisse entendre l'agitation autour du gouvernement et les messages distillés par l'actuel gouvernement. Il n'est pas seul. Mais nous n'allons pas rester à cela parce que je m'en tiens d'abord. Ce que je veux retenir, ce sont vos auditeurs de départ qui ont effectivement dit ce qu'est le Cameroun, une société multiculturelle, multiethnique. avec un métissage et un brassage des ethnies et des populations qui viennent de partout. Donc, nous sommes le fruit d'un métissage.
Alors, justement, Joël Didiengo, l'auditeur tout à l'heure en reprenait, dit à chaque fois, à chaque élection, chaque contention électorale, on monte du doigt une ethnie, souvent d'ailleurs toujours la même. Je repose ma question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que cette instrumentalisation des divisions ethniques ne vient-elle pas de la colonisation et de la guerre contre le révolutionnaire qui a mené la France à la fin des années 50?
Il faut remonter à la colonisation, en fait. Cette instrumentalisation est due à un formatage même de ceux qui nous ont été imposés après qu'on ait décapité les leaders indépendantistes. Il faut comprendre ça. C'est en fait ça. Les Biya et les autres sont des héritiers du formatage, ce que les Camerounais appellent toujours le formatage ondulatiste. Odjoula était l'un des ex-gouverneurs qui était au Cameroun avec M. Mesmer, qui ont conceptualisé quelque part ce qu'on appelle au Cameroun, les Camerounais en parlent toujours de manière triviale en parlant de l'axe nord-sud. L'axe nord-sud, c'est quoi? L'axe nord-sud, ça veut dire que vous actez l'élimination ou une forme de ségrégation politique à l'égard de certaines ethnies qui ne doivent pas arriver à la fonction suprême. Dire simplement, le poste de président de la République n'est pas fait pour les anglophones ou les babilékés, mais doit se concentrer entre les gens peuls du nord et ceux du sud. Et il y a des concepts comme ça que nous ont légué les colonisateurs qui viennent se greffer sur une malgouvernance chronique sous Biya et, disons-le aussi, une extrême longévité au pouvoir qui fait que le régime a besoin en permanence de manier ce que j'appelle des éléments nauséabonds de ce que vous venez d'entendre là pour faire croire qu'il s'occupe mieux des Camerounais, alors qu'en fait, nous souffrons des mêmes maux qui sont l'extrême misère, l'extrême pauvreté dans un pays qui manque de tout aujourd'hui. Donc c'est ça le fond aujourd'hui. Donc quand j'entends parler quelqu'un de dire que des Babilékés en font trop, qu'est-ce qu'il dit? Mais derrière Babilékés, c'est un groupe ethnique. Au sein des Babilékés, vous avez des Bangantés, des Bafoussam, des Chang et des autres, parfois qui ne s'entendent même pas lorsqu'ils parlent comme le pourraient l'être les Fang.
Vous dites finalement que c'est pas un groupe uniforme. Joël, il nous reste quelques minutes. On va essayer d'écouter Bernard Alassane. Et on peut quand même remarquer ce qui est un peu surprenant, hein, c'est que finalement, ceux qui font le jeu du tribalisme accusent ceux d'en face de faire le tribalisme. Voilà, c'est de la rhétorique. Pardon, pas Alassane, c'est juste après. Bernard, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour les auditeurs. Moi, je ne suis pas du Cameroun, je suis de la République du Congo.
Vous n'êtes pas obligé d'être Camerounais pour parler du Cameroun, hein, je précise. Hein, parce qu'on a souvent des messages comme ça, où mais voilà, on est là pour parler, tout le monde peut parler de tout ici.
D'accord. Ce que je trouve gravissime, qui est minimisé, c'est les propos tenus par ces ministres camerounais. Pour moi, puisqu'il n'y a plus de temps, je voudrais simplement dire ceci. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après le procès de Nuremberg, il y a eu une phrase qui est restée vraiment dans l'anthologie. Plus jamais cela. Mais on constate que, en Afrique, même ce qui représente l'État, censé de représenter la loi, censé d'éduquer la population, d'inviter la population à être unie et ne plus être plongé dans cette division qui nous affaiblit, tient des propos aussi graves. Et ce qui est pire, ils restent encore à leur place comme des ministres.
Il n'a pas été démissionné, hein, c'est vrai.
Donc ça, c'est grave encore. Cela montre quoi? C'est tout simplement, en dehors de ce qu'il a tenu, mais l'instrumentalisation, justement, l'allégeance de celui qui a tenu ses propos par rapport à celui qui l'a nommé là. C'est-à-dire, il ne considère pas le peuple est déconsidéré, il considère celui qui l'a nommé, celui qui a fait qu'il soit là. Ça, c'est grave. Moi, j'ai dit, malgré les excuses présentées à l'ambassade d'Israël, j'ai dit ceci. C'est un homme qu'il faut poursuivre, qui doit être transmis devant la justice parce qu'il fait la
promotion. Je ne sais pas si au Cameroun, il y a une loi sur la promotion ou ce qu'on appelle la loi Guesso en France, hein, qui condamne l'antisémitisme et la promotion du négationnisme. Merci beaucoup Bernard, on a juste peut-être le temps de réécouter un peu Alassane, et je remercie encore Bernard hein, qui s'inquiétait effectivement de ses propos tribalistes et qui rappelait cette phrase, on a dit plus jamais ça, c'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était en Europe. Entre deux, il y a eu un autre génocide, malheureusement, le génocide des Tutsis au Rwanda. Alassane, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour à vos invités.
Vous avez une question très simple, Alassane, posez-la parce qu'il reste moins de deux minutes.
Voilà. Moi, j'étais au Cameroun en 1979, donc ça ne me résonne pas, ça fait 40 ans. En l'espace de 3 mois, j'ai travaillé mon billet d'avion qui s'appelait Air Zaïre. Et ce pays aussi se trouve dans une crise très profonde. À l'époque au Sénégal, c'était Senghor, il y avait une crise.
Alors, Alassane, je sens bien que vous n'allez pas être bref pour votre question. Le Cameroun était un pays stable, comment en est-il arrivé là? C'était ça votre question, on est bien d'accord, voilà. Alassane.
Voilà, qu'est-ce qui était sa longévité?
C'est très clair. Alassane, merci beaucoup. Joël, rapidement, tous les signaux sont au rouge actuellement au Cameroun. Hein. Plusieurs articles hein, parlent des entreprises dans la tourmente. Même Logicam hein, s'inquiète de cette montée du tribalisme. Joël Didier Ngo.
C'est le reflet d'une extrême longévité au pouvoir. On n'a pas besoin d'être pro-BIA ou anti-BIA pour le constater que le Cameroun est en faillite dans tous les secteurs et que ceux qui s'arc-boutent au pouvoir n'ont qu'une seule logique, y rester et y rester en instrumentalisant de manière cynique tout ce qui peut mettre les Camerounais les uns contre les autres. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas le propre du Cameroun, mais nous disons simplement, nous comme organisation de la société civile, que ça suffit. Ça suffit. Et les propos de Maître Momo, nous pensons que nous n'allons pas en rester juste à demander à ce qu'il démissionne d'un gouvernement dont il ne veut pas démissionner. Mmh. Nous essayons de voir comment nous lui opposer devant des prétoires judiciaires. Parce que pour faire comprendre aux Camerounais et au-delà que des propos comme ça ne peuvent pas être banalisés.
C'est très clair, Joël Didier Ngo.
Ne peuvent pas être banalisés.
Merci beaucoup Joël Didier Ngo. On arrive à la fin de cette émission. J'ai juste le temps de lire rapidement le message de Kabiloté Kabidlo. Non, oui, il est là. À mon avis, la montée du tribalisme est un effet secondaire d'un régime autoritaire. Hein. Vous aviez un peu tous la même analyse. Hein. Quand le président, la famille du président, son ethnie gouverne en majorité, le dérapage est imminent. Voilà ce que nous disait Kabiloté. El Kabilo sur facebook.com/journal des auditeurs. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur la page, continuer le débat, nous faire part de vos commentaires, nous envoyer des petits messages, ça nous fera plaisir. Demain, dans le JDA, nous parlerons du cas et de l'avenir de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Inscrivez-vous en laissant un message sur le répondeur au 01 55 07 58 05. Restez à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.